De retour à Delirium Environnemental. Pour ceux qui nous écoutent à partir de notre site internet que vous avez probablement trouvé au www.radiodelirium.net.
Il y a des fortes chances.
On est dans la deuxième partie, deuxième section de 3 de l'émission du 22-23 février 2005. On vous parle de changement climatique. Comme c'est original, on en a beaucoup parlé la semaine passée, mais il va y avoir encore des millions de choses à dire encore pour les prochaines semaines. Entre autres, quelque chose qui t'a bien fait rire, Nicolas Mainville, il paraîtrait que la preuve ultime de l'occurrence des changements climatiques est faite, enfin.
C'est fait, ça a été fait le lendemain du lancement de Kyoto. C'est une étude qui a consacré ces dernières années une espèce de compilation des statistiques sur les changements de température des océans. Vous savez que les changements climatiques ont été surtout étudiés par rapport aux changements de température de l'air, mais là, bon, il y a une équipe de recherche du Scripps Institution of Oceanography qui ont fait une espèce d'analyse compilation de ces données-là sur les températures des océans. Et puis, ils nous arrivent avec la conclusion qu'on a la preuve ultime que les changements climatiques sont en train de se passer.
Quelle est cette preuve ultime?
Et la preuve, c'est que dans les 40 dernières années, il y aurait eu une augmentation de 0,6 à 1 degré Celsius la température des océans, température moyenne. Et vous savez que les changements de température de l'eau sont beaucoup plus difficiles à atteindre que les changements de température de l'air. Ça prend beaucoup plus d'énergie pour changer 1 millilitre d'eau ça prend beaucoup plus d'énergie pour faire changer la température de l'eau que la température de l'air.
Je suis sûr que tu as perdu beaucoup de monde en parlant d'énergie puis de changement de température, mais bon, c'est pas grave.
Bien, tout ça pour dire que la chaleur change, la chaleur qui vient du soleil, l'effet de serre, vous comprenez le phénomène d'effet de serre, augmentation des températures. Eh bien, si on a remarqué ce phénomène-là dans les océans, ça montre qu'il y a vraiment un phénomène actif qui est en train de se passer. On a compilé, en fait, 7 millions de compilations de températures sur des échelles de temps pour arriver à cette conclusion-là. Et puis, on envoie ça directement en pleine poire de M. Bush, puisque vous savez que l'administration Bush refuse toujours la théorie des changements climatiques, bien qu'elle comprenne la théorie de l'effet de serre, ne veut pas admettre cette réalité. Et puis, va de conclure M. Barnett, qui était en charge de cette étude. Écoutez, maintenant, les preuves sont irréfutables, à moins d'être imbécile.
Bon, ben voilà, c'est clair, n'en dis pas plus. C'est très, très clair. Nous, ça faisait longtemps qu'on l'avait compris, c'est l'environnement environnemental, mais bon.
Juste pour finir là-dessus, vous avez probablement vu The Day After Tomorrow, ce super film américain, états-unien, pardon, qui nous parle des scénario catastrophique. Eh bien, dans cette étude et dans une espèce de compilation faite dans le cadre de l'Académie des sciences états-uniennes, on nous dit, écoutez, tout le courant chaud qui réchauffe l'Europe en ce moment est directement affecté par ces changements de température-là, les courants chauds des océans, évidemment, on parle du Gulf Stream. Et puis, cette modification de la température pourrait entraîner, dans les prochaines décennies, les diminutions drastiques de la température en Europe. Exactement comme dans le film.
Mon Dieu, courrez-vous de vous louer ça, vous allez tous vouloir vous construire un bunker. Merci beaucoup. La convention des parties signataires du protocole de Kyoto doit se tenir cet automne à Montréal. On était bien contents d'apprendre ça. Patrick, tu as appris quelque part par tes sources officielles qu'il s'agit d'un écran de fumée.
Oui, bien oui.
C'est polluant, la fumée.
Vous savez, Paul Martin annonçait ça le 16 février 2005. Eh bien, il y aura la 11e conférence des parties des pays signataires du protocole de Kyoto à Montréal. Quelle belle journée pour faire cette annonce, parce qu'en même temps, on ne l'a pas dit, mais le plan canadien n'est pas encore sorti pour s'attaquer au protocole de Kyoto.
Toujours pas.
Toujours pas. Au Québec, le plan québécois n'est pas encore sorti. Toujours pas. Et M. Paul Martin a oublié de dire qu'il était à la tête d'une mutinerie, mais c'est celui qui a tenté de bloquer la signature, ou plutôt la ratification du protocole de Kyoto au sein du Canada. Ça, c'est notre premier ministre. Il faisait probablement un travail potable en tant que ministre des Finances. Eh bien, je me passe de commentaires parce que ça n'a aucun... Écoutez, on sait depuis 1997, le Canada est signataire du protocole de Kyoto depuis 1997. On sait que ça va rentrer en fonction en 2005. La journée même que le protocole devient actif, on n'a pas de plan au Canada. Écoutez, moi, des annonces de dire on est content d'avoir la conférence. Oui, ça va mettre de la pression sur le Canada et le Québec, et j'espère, parce que des affaires, on n'a pas de plan quand ça rentre en fonction, ça n'a pas d'allure.
C'est d'un manque de crédibilité flagrant, d'autant plus qu'on doit prouver à la planète que le Canada a une bonne intention. Le fait qu'on reçoive la COP 11, la conférence des parties, la 11e, en fait la première de cette nouvelle ronde Kyoto, est essentiel pour convaincre des pays comme la Chine et l'Inde de rentrer dans le bal, de montrer que c'est possible pour des pays industrialisés de rentrer dans Kyoto, de faire les efforts, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de garder une certaine croissance économique. J'aime pas le terme, mais bon, c'est quand même ça qui est évalué par la Chine et l'Inde en ce moment. Et en ce moment, on a vu dans la première semaine de Kyoto certaines statistiques sur les pays, ceux qui vont être capables de respecter leurs engagements par rapport à Kyoto, ceux qui vont avoir plus de difficultés. Vous savez que le Canada, c'est le pays qui a le plus gros challenge d'une certaine façon, puisque lorsqu'il est allé... Bon, on s'ostinera après. C'est ce qui est déclaré, notamment dans le cadre du colloque sur les changements climatiques qui avait lieu à la biosphère la semaine passée. C'était un peu les termes qui étaient employé par M. Alain Webster, qui est économiste à l'Université de Sherbrooke, et qui nous dit, écoutez, on a le plus gros écart, en plus qu'on a augmenté nos émissions de gaz à effet de serre de 20% depuis 1990. Vous savez qu'il faut les baisser de 6% sous les niveaux de 1990. Ces émissions-là ont augmenté. On était déjà mal outillés en signant Kyoto, parce qu'il y avait déjà bisbille au sein du Canada même. La province de Québec étant beaucoup plus en avance due à l'hydroélectricité, c'était déjà ostiné pendant longtemps, en fait. C'était M. Bégin, ancien ministre de l'Environnement, à l'époque, qui disait, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Le Canada était déjà en train de négocier à la baisse le protocole de Kyoto pour reporter de 10 ans. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était de connivence tout à fait avec les États-Unis qui font des pressions depuis le début pour que Kyoto soit vraiment faible. Eh bien, apparemment, l'Europe était capable de réduire de 15% ses émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'il y a déjà eu la chute de l'Allemagne de l'Est, et puis on était capable de réduire ces émissions-là. Et puis, les États-Unis, avec le Canada, ont demandé que les réductions, les efforts soient de 6 ou 7% seulement et non pas 15% pour pas que les autres pays aient de l'air épais.
Mais juste pour...
Beau,
moi, j'ai un petit peu, en tout cas, la difficulté justement avec... on entend souvent ça, le Canada est un des pays qui a le plus gros mandat en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est complètement pas vrai. On a un gros mandat parce qu'on a augmenté nos émissions. L'objectif du Canada est de 5%. L'objectif de l'Europe est de 8%.
On est le seul pays... industrialisé qui a ratifié le Kyoto, exportateur net de pétrole. C'est ça la grosse différence. Il n'y a aucun autre pays exportateur net de pétrole qui a ratifié dans les pays industrialisés. Et c'est ça qui fait toute la différence. Puis dans les 10 dernières années, l'Alberta a augmenté de 30% ses émissions de gaz à effet de serre à cause des sables bitumineux et la nouvelle orientation énergétique du Canada. Donc, on a accumulé ces statistiques plates-là. On a le défi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et qu'il faut baisser les bras. Puis de voir le gouvernement fédéral autant soumis au lobby pétrolier et au lobby de l'industrie, c'est désastreux.
Parlons-en de ces lobbies. Depuis 2002, justement, on a cet article dans Le Soleil de cette semaine. Depuis 2002, il y a plus d'une centaine de lobbyistes qui se sont présentés à Ottawa. Une foule d'organismes d'entreprises. Écoutez, je vous en nomme quelques-uns.
Alcan,
Domtar, Transalta, Suncor, Conseil canadien des choses d'entreprise. Et c'est probablement ce pourquoi justement on est si en retard en termes d'objectifs de Kyoto, parce qu'il y a du lobby qui pousse. Et...
on s'imagine que le lobby environnemental est beaucoup moins financé et beaucoup moins présent. Merci beaucoup, parce que ça nous permet peut-être de comprendre certaines choses dans le fonctionnement de ce gouvernement. De retour à Delirium environnemental, on continue sur la lancée Kyoto, les changements climatiques, le transport, mais particulièrement Kyoto, c'est bien beau, ça va coûter cher ça?
Ah, moi, j'envoie un blâme sérieux à l'émission Délirium environnemental sur Choc FM et CIBL pour avoir choisi le jour de mardi pour enregistrer leurs émissions, puisqu'à chaque fois, à chaque semaine, on se fait avoir par des dépôts officiels, puis des conférences de presse, et puis la semaine passée, c'était Kyoto, et cette semaine, c'est le budget fédéral qui tombe demain. Monsieur Goodell va finalement nous dire combien le Canada veut mettre sur Kyoto et l'environnement. Les stipulations actuelles sont de l'ordre de 6 milliards de dollars qui seraient attribués à la question environnementale, principalement sur la question Kyoto. C'est important de le mentionner. Et ce qui est aussi important, c'est de dire que cette distribution d'argent ne sera pas uniforme à l'ensemble du pays et qu'il y aura certaines provinces qui vont être plus financées que d'autres, notamment la Colombie-Britannique et le Québec. Pourquoi? Pour aller chercher un petit peu plus de votes pour le libéral, pour avoir un beau parti majoritaire aux prochaines élections.
On entend que cet argent-là va particulièrement servir à faire des crédits d'impôt à ceux qui vont faire des efforts.
On le sait pas, probablement. On le sait juste pas. Il n'y a aucun plan en ce moment. C'est toutes des spéculations. Il y a une grosse partie de cet argent qui va servir à acheter des crédits de carbone à l'étranger, c'est vrai, parce que M. Dion l'a officialisé. Mais sur le reste, on n'en a aucune idée. Est-ce que ça va aller dans le transport en commun? Ça pourrait être intéressant.
Ça prendrait beaucoup de travail.
Mais ce qui est important de mentionner, c'est que au moins la moitié de cet argent, de ces 6 milliards annoncés déjà,
3 milliards
serait, oui, un excellent calcul, la moitié de ces 6 milliards serait de l'argent qui existe déjà, de l'argent qui n'a pas été utilisé, de l'argent de fonds qui ont juste mijoté dans le fond c'est de la nouvelle argent.
Ah, c'est l'argent.
Les nouvelles agences.
Ah,
exactement.
Ouais, juste rappeler, c'est important de préciser que ce 6 milliards, c'est pas l'année prochaine, là, c'est échelonné sur plusieurs années. C'est... Donc, on va peut-être avoir 1 milliard par année. La grosse affaire. Mmh. Eh bien, je sais pas si vous connaissez la vérificatrice générale du Canada.
Madame Fraser.
Exactement. Une chance qu'on l'a, Madame Fraser.
C'est parce pas Clarkson.
Non, Clarkson.
On se mélange là. Donc, Madame Fraser, on reviendra un autre jour avec Madame Clarkson lorsque vous l'aurez trouvée. Eh bien, Madame Fraser nous a sorti son fameux rapport annuel la semaine passée. Et dans ce rapport, elle parlait justement des fondations au niveau fédéral. Vous savez que depuis 97, soit à partir du moment où on a coupé partout, puis on a dit on n'a plus d'argent, on a créé 9 fondations. Donc, 9 fondations avec quand même pas mal d'argent. On parle dans les milliards, quelque chose comme 9 milliards. Et dans ces 9 milliards-là, il y avait un 350 millions qui était consacré à une fondation qui s'appelait Technologie du développement durable. Donc, depuis 6 ans, soit depuis 97, sur ces 350 millions, on a utilisé 6 millions. Donc, ce qu'elle nous dit, Mme Clarkson, dans le fond, c'est que le gouvernement du Canada a créé des fondations. Il a mis de l'argent dessus, justement, parce que cet argent-là n'est pas discuté par les parlementaires. Le gouvernement n'a même pas le droit de regard dans les comptes comptables de ces fondations-là. C'est un petit peu un genre de mini-scandale des commandites fondations. Donc, on met de l'argent dans les fondations, comme ça, on n'a pas à en discuter. Et en plus de rembourser la dette avec plein d'argent, bien, on en place à gauche, à droite, puis on la ressort quand on veut. Donc, de l'argent qui ne sert pas.
Cela pue.
Et oui. Donc,
cela pue d'autant plus que vous savez qu'on a, comme je disais tout à l'heure, les pressions du lobby sont assez importantes sur le gouvernement fédéral. Ces argents-là, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être placés. Mais je vais juste mentionner une statistique intéressante. Les industries devront faire leur part. Et puis, il y a des bons articles cette semaine pour essayer de convaincre l'industrie canadienne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et on donne souvent l'exemple des alumineries qui ont déjà réduit de 50% leurs émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, ça ne veut pas dire que l'industrie de l'aluminium n'est pas polluante. Il faut juste pas se mélanger. Quand on voit ces chiffres-là de réduction de gaz à effet de serre, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs autres conséquences environnementales.
Ça, c'est clair. C'est clair. Entre autres, les alumineries sont beaucoup liées à certains cancers dans le coin du lac Saint-Jean et du Saguenay. Juste en terminant, on sait que le transport est responsable au Québec de 38% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport automobile, il y a des chars éco-efficaces.
Ben oui, on a les prix Énerguide. Vous savez qu'on a les consommations qui sont chiffrées des différents véhicules. Eh bien, encore une fois, cette année, les véhicules hybrides, haut la main l'emporte. Oh. Honda Insight, Honda Civic hybride, Toyota Prius parmi les meilleurs. Je vous parle des pires par la suite, mais gardez en tête qu'il y a des véhicules qui ne consomment pas beaucoup d'essence et allez sur notre site web, on vous fait le lien directement pour que vous soyez renseigné lors de votre prochain achat ou l'achat de votre papa-maman.
Hey Léo! T'as entendu parler de ça, toi, les chars hybrides?
Ok,
Richard, hybride?
Bob.
Encore écouté Star Trek hier soir, t'as l'air.
Non, non, ça existe pour de vrai. Pis il paraît que ça roule aussi bien qu'un champ normal. La lumière rouge, ton moteur, il tourne même pas.
Ben oui, c'est ça, mon Bob. Là, tu vas me dire que ça consomme moins d'essence, que ça fait moins de pollution, pis que ça fait moins de bruit, je te dis.
Ben exactement, mon Léo.
Ben voyons, non, je t'agrée même pas.
C'est déjà la fin de la revue de presse à Delirium Environnemental en cette belle semaine presque dernière de février. Donc, en bref, les petites vites cette semaine.
Eh bien, après les meilleurs véhicules, on a les pires véhicules aux États-Unis qui ont été identifiés. Les Dodge Ram, Ford Excursion, Hummer, Yukon, Yukon, Suburban, Land Rover, Range Rover, c'est tout de la scrap and they are.
Comment t'as dit ça, Yakin?
Yakin?
Yakin. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que le titre de CO2 Solutions s'envole à la bourse. Vous connaissez cette entreprise qui a lancé un processus assez innovateur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, augmentation de 75% depuis l'entrée du protocole de Kyoto. Donc, le titre a grimpé. Et puis, si vous voulez faire un investissement, eh bien, c'est la bonne place. Parce qu'on va faire du cash, parce qu'avec le verre, il y a une pièce à faire.
Ça, c'est bien connu, c'est aux deux solutions. On sait que vous nous écoutez à chaque semaine. Si vous avez le goût d'investir dans nous, ça nous fera plaisir de recevoir vos bidous.
Eh bien, après, avec le verre, il y a une pièce à faire. Avec le verre fluo, il y a deux pièces à faire. Parce que le titre de Camco, le plus principal producteur mondial d'uranium, a bondi de 150% depuis un an. Devinez pourquoi? L'avènement des centrales nucléaires un petit peu partout. Même l'Agence internationale de l'énergie recommande au Canada de se lancer dans le nucléaire pour lutter contre les changements climatiques.
C'est merveilleux.
Ah, secours!
Est-ce qu'on passe au Brésil, mesdames et messieurs? On passe au Brésil, c'est confirmé. Alors, au Brésil, vous avez entendu parler du meurtre d'une sœur qui s'est mis devant les intentions des compagnies forestières, qui s'est fait carrément assassiner. Eh bien, le gouvernement Lula bouge en créant une réserve environnementale, une réserve écologique pour protéger un gros pourcentage du territoire amazonien contre, justement, l'exploitation de ces multinationales coupant la forêt amazonienne. On parle de 3 fois la taille de la Belgique. Alors, je vais vérifier mes chiffres, car je suis un peu confus. C'est énorme.
Moi, j'ai la taille.
On va commencer par une, puis on verra la taille de l'Autriche.
Ben, écoutez, moi, je vous parle de la Californie. Vous savez qu'il y a le comté de Mendocino en Californie qui a été le premier à bannir les aliments génétiquement modifiés. Eh bien, il inaugure de nouveau. Eh bien, attention! Oui, c'est officiel. Il va y avoir, non pas encore officiel, ils veulent avoir une certification organique pour la marijuana.
Non!
Eh bien, oui, ne déménagez pas immédiatement. C'est pour ceux qui auraient des problèmes et qui en auraient besoin au niveau médicinal. Mais quand même!
Alors, d'ailleurs, j'en profite pour attirer votre attention à tous ceux de l'industrie forestière qui risquent de perdre une partie de leurs revenus à cause que les forêts sont vides. La fibre de chanvre est excellente pour faire des pâtes et papier et ça pousse comme de la mauvaise herbe 2 récoltes par année. Merci, c'était ma plug.
Une des rares nouvelles environnementales sorties du Journal de Montréal, mesdames et messieurs. Wow. Un écoulement d'amas d'ordures sur l'île de Java. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. 9 morts qui sont causées par, justement, un glissement de grosses mottes de déchets. En fait, ça met en surface la problématique de la gestion des déchets sur une petite île, ben, relativement petite. Et écoutez, c'est assez dramatique puisque on attribue directement la mauvaise gestion des déchets à la cause directe de morts sur le terrain. Donc, très inquiétant.
Eh bien, parlant de déchets, la Chine qui devient une des plus... En fait, le pays qui consomme le plus, on parle de grains de viande, d'acier et de charbon. En fait, dans les cinq domaines principaux, il y en a seulement un que les États-Unis les devancent, et on parle évidemment du pétrole. On en brûle encore 10 fois plus qu'en Chine aux États-Unis. Et petite parenthèse, la moyenne de consommation aux 100 litres en Europe pour les véhicules est de 5,5 litres et la moyenne de consommation aux 100 litres en Amérique, c'est de 10 litres. Voilà pourquoi.
Incroyable, parlant des États-Unis, écoutez, il y a les gens du Fish and Wildlife Service qui ont mis en lumière un contrôle d'information flagrant de la part du gouvernement états-unien. Écoutez, les scientifiques là-bas se sont fait baïonner du début jusqu'à la fin. Ils ont été obligés de changer leurs résultats, de modifier leurs conclusions d'études pour ne pas faire entrave à l'industrie, ne pas faire entrave au commerce. Et c'est dans le cadre d'un sondage indépendant que les scientifiques ont répondu finalement honnêtement pour dire, écoutez, on est complètement attachés et on ne peut pas dire la vérité.
Mon Dieu, c'est laid. C'était il y a un an. Nous apprenions, à cause d'une étude rendue publique par l'Institut Armand Frappier, que certaines espèces de poissons dans le fleuve Saint-Laurent sont en voie de féminisation. Et ce n'est pas rien. On parle d'ovaires qui se développent dans les testicules. Savez-vous comment je trouve ça inquiétant, moi? C'était il y a un an. On n'en parle plus. C'est plus d'actualité, mais c'est pas moins grave. La revue de presse, la revue de l'actualité est terminée, mais Delirium n'est pas fini. Non, nous sommes inébattables. En tout cas, je me comprends. Inébattables, voilà le mot est juste. Merci, Étienne. Côté Paluc, qui s'occupe de la conception de notre site Internet, que vous pouvez toujours trouver au www.radiodelirium.net.
Allez voir nos nouvelles, sérieux, on fait toute une revue de presse à chaque semaine. Ça vaut la peine d'aller checker ça pour vérifier si on dit la vérité.
Oui, puis en plus, c'est ça, comme on est pressé dans le temps et on ne veut pas achaler les gens, bien, on dit souvent rapidement les nouvelles. Il y a beaucoup de données qui sont absolument importantes et déterminantes. Il en va de la survie de la planète et donc, par conséquent, de notre survie à nous humains. Alors, je vous invite à le faire à droite de l'écran. Vous avez les nouvelles desquelles on vous a parlé chaque semaine. On termine la deuxième partie cette semaine en recevant quelqu'un qui s'appelle Nicolas Roy. Et pourquoi est-ce qu'on veut le recevoir? Mais parce que, comme je vous l'annonçais en début d'émission, semble-t-il que l'UQAM va devenir plus verte, plus durable. On sait que le développement durable, c'est dans l'air du temps, c'est un terme très à la mode. Eh bien, il y en a qui travaillent pour le développement durable de l'UQAM. Et ça, c'est ce qu'on appelle le projet d'Aude. Donc, en fait, semble-t-il que c'est une poignée d'étudiants. On s'imagine bien que ça ne vient pas directement de l'administration qui a décidé de tout revitaliser l'université pour être vraiment conséquent de notre conscience. Non, pas encore. Alors, Nicolas, bonjour, ça va bien?
Bonjour, oui, très bien.
Alors, donc, en deux mots, c'est impossible, je ne te dirai pas ça. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est le projet d'Aude?
Le projet d'Aude, c'est une extension d'un projet qui est parrainé par la coalition Jeunesse Sierra ou le Sierra Youth Coalition, qui a une campagne de mise en place d'augmenter finalement la soutenabilité au niveau des institutions, des universités comme telles.
Soutenabilité, hein?
Durabilité, c'est ça.
Peut-être simplement faire une mise au point, parce qu'ici on accroche là-dessus, mais pourtant on est un peu au courant. On sait que durabilité, en fait, c'est une étrange traduction du terme officiel qui avait été en anglais sustainable, qui dans les faits veut pas dire durable, mais bien soutenable.
Exactement.
Mais bon.
Donc, c'est en anglais, c'est Sustainable Campus, la campagne. Donc, nous, on a décidé, le projet d'Aude comme tel, c'est le développement UQAM durable. On a pris le développement durable, mais idéologiquement, on essaie de transférer vers la soutenabilité. Donc, le projet, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative qui vient du Forum de l'Institut des sciences d'environnement, donc à la maîtrise, qui commence tranquillement à s'extendre un peu partout dans l'université, puis qui a d'autres gens qui viennent de droit, de géographie plutôt, puis de d'autres endroits, puis qui est maintenant qui est au sein du groupe UQAM, donc le groupe de recherche en intérêt public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce projet-là? Donc, de mettre en place le campus durable ici à l'UQAM, ça veut dire de mettre, de d'analyser finalement la soutenabilité à l'aide d'une quantité X, au moins à peu près 200 environ indicateurs qui ont pour but finalement d'analyser, de regarder comment voir si l'organisation qui est l'université fonctionne et est-ce qu'elle est durable comme telle ou soutenable si on veut. Donc ça c'est dans un premier temps, donc d'analyser toutes ces choses-là. Donc ça va tant des indicateurs sociaux, socio-économiques, environnementaux, tant que la diversité culturelle, à l'endettement des étudiants, tant sur la qualité de l'air qu'à la diversité, si on veut, de la bouffe à l'intérieur de l'université. Dans un deuxième temps, donc, il s'agira de mettre en place à la suite de cette analyse-là des recommandations et tenter de mettre en place des recommandations, pousser l'administration, donc c'est une initiative étudiante, donc essayer d'entrer dans une espèce de, peut-être on pourrait appeler ça un rapport de force avec l'administration pour essayer de faire avancer l'université vers quelque chose de plus soutenable comme tel.
Et à quoi ça ressemblerait une université plus soutenable, si je veux avoir une image en tête?
Bon, ben les indicateurs, comme j'ai dit, ça part de la qualité de l'air jusqu'à la diversité de la nourriture, mais c'est de transformer dans ses agissements comme tel le fonctionnement de cette bête-là. Donc, on peut penser l'université, bon, c'est quand même une grosse c'est une grosse institution et ça fait des investissements, donc d'aller vers des investissements, pardon, socialement acceptables, d'avoir des trucs dans les toilettes pour que les lumières se ferment automatiquement quand il n'y a pas de mouvement, par exemple. Ça veut dire de changer l'espèce de contrat d'approvisionnement ou d'exclusivité avec la nourriture, avec les grandes chaînes, puis d'avoir peut-être plus de diversité de la bouffe bio, par exemple, ou des comptoirs pour ceux qui ont moins de sous pour pouvoir justement. Donc, c'est tout le petit geste qui individuellement fonctionnerait individuellement, mais là, on essaie de voir ça collectivement pour faire une grosse réflexion. C'est sûr que là, c'est peut-être un petit peu trop théorique là, pour l'instant, mais faire une grosse réflexion sur ces ajustements-là pour forcer la transformation vers des actes plus concrets.
En fait, c'est peut-être normal que ça vienne d'une impulsion étudiante qui sont justement peut-être plus au fait de ce qui se dit puis des nouvelles tendances, etc. Donc, on parle dans un premier temps de faire l'analyse des impacts environnementaux plutôt dans une perspective de développement durable, faire une analyse des impacts de cette institution qui est l'université. En termes de temps, parce que là, on parle de faire des études, d'autres études, quand à première vue, on peut voir qu'il y a des choses qui n'ont pas de bon sens. Là, par exemple, l'utilisation de l'énergie du papier de l'eau. Il y a beaucoup de gaspillage qui se fait quand même dans une université.
Effectivement.
En termes d'échéance, dans combien de temps l'UQAM va être verte plutôt que brune?
Bon, ben là, ça dépend toujours des résistances qu'on rencontre au sein de l'administration. Là, nous autres, on se dit que qu'on va rentrer... on prévoit finalement d'ici un an qu'on va être capable d'arriver à la fin de la réponse des indicateurs, puis après ça, de mettre en place, d'essayer de faire des études de faisabilité de ces recommandations-là. Mais là, c'est à voir comment que l'administration va entrer en facilité avec nous, va venir nous aider ou un truc comme ça.
Et comment on vous rejoint pour ceux qui seraient intéressés à comprendre un peu plus ce projet?
Pour l'instant, l'adresse c'est projet DOU, donc projet comme projet DOU, de DUDE A commercial groupe S avec un S yahoo.ca, mais d'ici le 7 mars, on devrait avoir un site internet comme tel, donc efficace et effectif.
Mais Nicolas Roy de l'Institut des sciences de l'environnement et plus particulièrement du projet DOU, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Bien sûr, l'adresse Internet sera sur notre site Internet à nous qui est au www.radiodelirium.net. Ce sera un dossier qui sera à suivre. On sera sûrement très curieux de vous recevoir pour entendre parler justement des résultats de cette analyse.